Kennedy soigne ses électeurs. Les temps sont difficiles. 3 jours après, on serre la louche, on fout en l'air toutes ses cartouches. Les petits Chinois bouffent de l'Indien. Tiens, 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 voilà du Bouddha, voilà du Bouddha. Les temps sont difficiles. À Rome, il y a l'écuménique, de quoi remplir la basilique. Il faut être conciliant, mes frères, les conciles, c'est si rare, mon père. Les temps sont difficiles. Le Vatican n'est pas d'accord, il dit qu'à Liège, on a eu tort. Quand tu verras un pape sans bras, avec quoi donc il te bénira? Les temps sont difficiles. Verlaine est mort dans la détresse, Rembrandt est mort, l'huissier aux fesses, Beethoven est mort dans la merde. J'ai que ce mot-là, faut pas qu'on le perde, faut distraire le profane.
Je n'ai plus de terre, plus aucun chez moi. Sous le feu, la guerre, fou de Dieu et soldat. Je n'ai plus de terre que ce rêve-là. Au bout de la mer, l'île de Lampedusa. Dans ce bateau de misère, 500 visages d'effroi. Loin l'Europe et l'Angleterre. Je prie Dieu pour qu'il ne nous abandonne pas. Je n'ai plus de nom, je ne suis plus moi. Ta télévision m'appelle migrant, je crois. Je n'ai plus d'argent, ces maudits passeurs m'ont pris tant d'étang, je n'ai plus que ma peur. Adieu mon pays que j'aimais tant, mon travail et ma maison. Dans le vent, le cri des enfants. J'espère qu'un jour le monde retrouvera la raison. Son souvenir, que Dieu ait son âme, je garde son sourire. Je n'ai plus d'hier, donne-moi un demain. Rouge dans mes artères, mon sang comme le tien. Les côtes de Libye s'effacent, et mon espoir avec elle. Si je vis, je ferai face. J'irai te rejoindre, ma belle. Hey, a pas, pas, pas la paix. Pas de la vie. Pas de la vie. Pas la paix, la paix. A pas, pas, pas la paix. Pas de la vie. Pas de la vie. Pas la paix, la paix. A pas, pas, pas la paix. Pas de la vie. Pas de la vie.
piano, na baba bota, na baba kele ban, ibangu baba ne, wawa yakome, wawa pops me, wawa pap me, wumbi sawe, weni mama, mele lengo mamo, mba mamu bochi, baba wale na mwana kebu meba. Yola baba kwa full memuka sabizu weba doya twa ibene makamena belwe mama tobona babutu utu kwa mugebe mebolo mbedi mabogo mena yoto mena rekne to yete mbe yema mame wanganya wewe dianze angwebane wepiri muka wa mukasa remboga
bien pour ce retour sur 01 43 71 89 40 avec un nouveau générique sur Ondes de Choc, mais attention, toujours avec un nouveau générique, mais certes, mais toujours avec Monique, parce qu'on peut rien faire sans elle. Est-ce que vous avez salué Monique quand même?
Oui,
vous la connaissez, monsieur. Vous,
nous l'avons embrassé.
Gilbert est plus prudent, mais vous, vous tremblez. Hein.
Oui.
Vous savez ce qu'il y a à faire. Voilà, c'est un plaisir.
Il ne faut pas que je tape sur la table. C'est un... sinon, elle me coupe les doigts.
C'est un plaisir très beau. Alors, vous, monsieur Bourson, Gilbert, qui est considéré Léo Ferré comme de la variété. Je vais vous le dire, vous m'avez dit hors antenne, arrêtez de vous démentir.
Oui, non, je ne me dément pas du tout. C'est, bon, voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec la chanson.
D'accord. N'empêche, avec la littérature, non, puisque vous avez publié Gilbert Bourson, Chine, aux éditions Badouros. Malheureusement, la couverture est illustrée par M. Koda, qui est là.
Il est loupé, comme d'habitude. Mais
vous m'avez fait une promesse, rendez-vous bien, de bien vous tenir avec Monique.
Avec Monique, oui, mais pas avec vous, cher ami.
Mais moi, ce n'est pas la première fois. Écoutez, puisque vous me dénoncez, je vous dénonçais aussi. On s'est rencontrés il n'y a pas longtemps au coin d'une rue.
Rue de Bagnolet, oui.
Vous ne sortiez pas, comme par hasard, comme d'habitude d'ailleurs, d'un bistrot, titubant, mais pour une fois, d'une librairie.
D'une librairie. Oui,
et vous aviez un livre sous le bras, donc vous savez lire, monsieur.
J'ai appris il y a peu, et j'ai acheté un abécédaire, effectivement, à cette librairie, avec A comme Alphonse, B comme Bit, et C comme Couillon.
Et A comme Anus aussi, vous l'avez lu.
J'ai pas osé, je vais graduer.
Mais monsieur Conan, il me semble une chose que vous avez sorti un livre dernièrement, malheureusement, vous avez persisté en littérature.
Quand cela, j'ai pas de
souvenir. Dernièrement, j'ai reçu mon postier.
Il va sortir le 5 octobre, si
non, mais celui-là. Moi, je l'ai reçu par la poste.
Oui, mais ça, c'est mon éditeur.
Comme quoi, le bourreau, pour moi, c'est frappe
mon
avant.
Mon éditeur qui tire plus vite que son ombre. Et sinon, ça sort officiellement le 5 du mois prochain.
Alors, moi, j'ai un gros malheur. Malheur.
Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit bouche?
C'est qu'il ne m'appelle pas comme ça à l'antenne, ça me tiendrait. Et puis, Monique est entendue. Est en coulisses, mais ça me gêne énormément. Je veux dire que là, lorsque c'est rentré, je reçois alors, un nombre de livres considérable.
Oui.
Et je me demande toujours, et c'est une fausse demande bien sûr, comment ceux qui sont payés pour faire ça...
Payé pour écrire.
Pour envoyer. Pour lire.
Ah.
Voilà. J'ai reçu, là je parle que des gens qu'on connaît, hein, vite fait, Jean Azarel, il a écrit.
Je l'ai au téléphone avant-hier après-midi.
Pareil. Contre poranéité des abîmes.
Que j'ai dû.
Très beau livre.
Un cri primal.
Oui, sinon c'est ma forme, j'ai pas eu le temps de le lire.
Voir, c'est bien.
Alain Marc, et c'est pas bien parce que c'est mauvais, vous m'avez dit hors antenne. Alain Marc, du monde suivi de la vie. La vie aux éditions Axibien, etc. Et tant d'autres, j'ai pas le temps, j'ai pas, je sais pas comment quelqu'un peut y lire tout ça. Non, j'ai aussi là le bah, c'est de l'amitié, c'est différent. Béa Kozak, consacré à Alain Jégou, sur la pulsion de Jacques Géos, de Jacques Josse.
Voilà, Jacques Josse.
Un magnifique personnage, Jégou, c'est très intéressant. Il était marin pêcheur, il est mort du cancer, mais entre-temps,
Un ami d'Azarel. Je crois que ça a été un ami d'Azarel.
Bien sûr, mais tout le monde, c'est ça qui m'ennuie dans la littérature.
Tu parlais de Jean tout à l'heure.
Jacques, c'est tout le monde se tient, on met la main, mais autre chose. Bon, bref, voilà. Et c'est un peu. On se demande comment les gens qui reçoivent les livres peuvent les lire. Mais maintenant,
ne les lisent pas.
Gilbert Bourson, moi, j'ai lu votre livre.
Bien.
Vous pouvez partir parce que c'est très mauvais. Je lis avec grande attention. Et pourquoi et tout à l'heure, j'ai demandé à Jacques Codat de venir, parce que j'ai une habitude. J'ai une habitude avec mon ami Éric Tessier, et que je présente toujours comme le plus mauvais écrivain qui n'ait jamais existé depuis l'importance de l'invention de la littérature, parce que la première émission que j'ai faite avec lui, figurez-vous qu'il y a des colonnes Maurice à côté, là. Et je passe devant la colonne Maurice et je vois admirable. Sublime, génial, le plus beau spectacle qu'on ait jamais. Et je reçois Éric Tessier, je lui dis autant dire que ton livre est mauvais, puisque tout est génial autour de toi. Et des mois plus tard, je sais plus ce que c'était comme livre, peut-être L'Extra du Prédateur, qui est un très beau livre d'ailleurs. Et on va en reparler. Et je repasse, il est là devant moi, et je repasse devant la colonne Maurice, c'était trois mois plus tard, c'est-à-dire, génial. Magnifique. Cette surinflation de. Et avec votre livre, monsieur Gilbert Bourson, Chine, qui est une escroquerie totale, je tiens à vous le dire, vous ne fallait pas venir ici. Ce n'est pas la première fois qu'on se rencontre, d'ailleurs.
Non, bien sûr.
C'est un plaisir.
Oui.
Il adore se faire éreinter aussi.
Oui, j'adore ça, lui, me faire taper dessus.
Pas du sang, monsieur Jacques Todin, c'est le fouet, c'est le rapport au SAD. C'est très bien, je vous félicite, il y a du souffle. Il n'y a pas de complaisance. Il n'y a pas de concession à l'électorat.
Ah, j'espère, oui.
Regarde. J'ai croisé ce monsieur. Alors maintenant, je vous l'avoue, non pas au sortir d'une librairie, mais d'un bistrot, il était ivre mort. Je lui ai dit, c'est un livre difficile. Ce livre est difficile, désarmant, mais bravo. Continuez. Bravo, c'est très bien. Maintenant, il y a un problème entre vous et moi. Ça s'appelle Chine.
Oui.
Et vous n'allez pas escroquer tout le monde au micro de Radio Liberté. Et je vais vous lire 6 lignes de quelqu'un qui vous a précédé, et vous allez forcément le reconnaître. Et bravo au livre, bravo. Chine, on va y revenir. Et illustré par M. Codal, la couverture.
Oui.
Trompeuse, escroqueuse et tout.
Qui va tout à fait dans le sens de la Chine, enfin du...
La nuit de Chine, la nuit d'amour.
Oui, tu contribues
À l'escroquerie générale. C'est mon métier. Hein.
Oui,
éditeur, directeur de collection.
Si vous le permettez.
Oui, vas-y.
Je vous lis, parce que je ne sais pas. Voilà.
Vas-y.
Je vous lis. Alors, écoutez-moi bien, parce que ce n'est pas un écrivain que je reçois, ce n'est pas un poète, c'est un shiftir et un biffin. Très beau.
Un biffin, oui.
On y revient après le biffin.
Ah oui,
mais
tout
à fait. Je tiens à vous confondre, monsieur. Je tiens à vous confondre, monsieur, sans aucun problème. Hein. Bon, Gilbert Bourson, il n'y a aucun problème. On voit un chiffonnier qui vient hochant la tête, butant et se cognant au mur comme un poète, et sans prendre souci des mouchards ses sujets, et pencher tout son cœur en glorieux projet. Il prête des serments, dicte des lois sublimes, terrasse les méchants, relève les victimes, et sous le firmament, comme un dais, suspendu, s'enivre des splendeurs de sa propre vertu. Vous savez ce que c'est ?
Le vin,
oui, oui.
Allez-y.
C'est le livre.
Le vin des chiffonniers.
Allez-y, c'est bien.
C'est le livre sur Charles Baudelaire. Oui.
Bien sûr.
Oui,
mais le texte est Baudelaire.
Oui, bien sûr qu'il est Baudelaire, bien sûr. Oui. C'est le texte sur Baudelaire de de Walter Gruy, et dont il cite ce passage de Baudelaire. Oui. Ça n'est pas étonnant par rapport à mon travail. Je veux dire, je suis évidemment un grand lecteur de Baudelaire, et pas seulement de la poésie, mais de la prose de Baudelaire, qui est très très mal connue en principe.
Tous ces salons aussi.
Tous ces salons, lui, bien sûr, sur la peinture. Oui, c'est un historien d'art, bien supérieur à nos historiens d'art actuels. Je pense que, d'ailleurs, par rapport au salon dont vous parlez, de Baudelaire, je pense qu'il n'y a d'équivalent sur le plan de la qualité, c'est ceux de Diderot.
De Diderot, oui.
Bien sûr. Voilà. Magnifique.
Bien sûr.
Magnifique. Petite parenthèse, et au niveau de la lecture du théâtre, puisque vous êtes monsieur, oui. Je vous rappelle que vous êtes metteur en scène.
Oui, oui, voilà. Je le fus.
Il y a aussi ce texte magnifique de Diderot, Le paradoxe sur le comédien.
Ah, bah, oui.
Est-ce qu'on fait mieux?
Non, d'abord, on ne fait pas mieux sur une étude théâtrale. Enfin, sauf qu'après, bon, c'est vrai, Artaud envisage quelque chose de tout à fait différent. Bon,
vous savez qu'en philosophie, il y a le phénomène d'introduire quelque chose, et c'est ce que je voulais vous faire dire. Oui. Il y a Artaud derrière.
Eh oui,
bien sûr.
Oui, qui lui remet tout en cause,
bien sûr.
Sans en faire une théorie. Ça, je précise bien. Je me suis un peu attrapé avec quelqu'un sur Facebook qui prétendait que j'ai dit, mais il n'y a aucune théorie dans le théâtre et son double. Il y a simplement la volonté d'une approche d'un théâtre très différent. Mais alors là, non, il y a une théorie. Non, justement, ce qui est merveilleux dans le théâtre et son double, c'est qu'il n'y a pas l'ombre d'une théorie sur le théâtre, mais il envisage de trouver un théâtre qui corresponde au corps, qui corresponde à la voix, qui soit ce que déjà pressentait un peu Mallarmé quand il parle à propos du violon.
Est-ce que dit Nietzsche aussi? Nietzsche, il n'y a pas de culpabilité par rapport au corps.
Ah bah non.
Bien sûr, c'est ça aussi Nietzsche, voilà. Bien sûr, quand je dis introduire, je me suis trompé, c'est induction. La philosophie induit quelque chose.
Sûr, oui.
Et quand je vous induis, effectivement, Diderot, il faut induire Artaud.
Bien
entendu.
Pour
pas faire autrement, comme ça. Voilà. Et donc, ce que raconte... C'est votre texte, en fin de compte. Votre texte, c'est un souffle. C'est juste pas...
C'est un souffle, et c'est assez paradoxal d'ailleurs, puisque il y a sept chapitres très différents de style, surtout par rapport, les deux ou trois premiers chapitres, si je me souviens, n'ont plus grand chose à voir.
Est-ce que vous ne vous souvenez pas de ce que vous écrivez, Monsieur Bourceau?
Je lis plus souvent les autres que moi-même.
Vous savez savoir, c'est partagé.
D'autant que ce livre a été écrit il y a assez longtemps.
Ouais. Alors, c'est un livre difficile. Alors, je vais vous dire, et puis on va bon, écoutez, je vous ai offert aujourd'hui la Fitzgerald. Ça vous va quand même?
Oh oui, bien sûr.
D'accord. Alors, hein, vous aussi, Monsieur Cotin, que vous n'avez pas de goût, qui préférez Michel Sardou et le reste?
Non, moi, je préfère Michel Sardou.
C'est bien ça, mais... D'accord. Et il y a tout ça. Votre texte est un texte de souffle. Et ça fonctionne à cause de ça. Voilà. Est-ce que, on posera le problème après. Hein.
Oui.
Est-ce qu'il y a un narratif?
Oui.
Je sais.
Je sais qu'il y a un narratif. Oui.
Mais je n'ai pas envie de vous répondre maintenant.
Non.
D'accord. C'est comme ça. Est-ce qu'il y a une tenue en haleine? Et ce qui m'intéresse dans votre texte, c'est qu'il n'y a pas de complaisance. Je l'ai rencontré. Par rapport au lecteur. Je n'ai pas dévoilé. Là, je devrais pas le faire, mais je vais le faire, vu votre âge. Et puis celui de M. Kodak est encore plus âgé. Il n'y a rien à perdre. On joue au hasard. Et c'est les grands qui font ça. C'est l'autre Raymond qui est bien plus jeune que vous à l'époque où il fait ça. Il a 24 ans, comme ça. On en parlera tout à l'heure. On joue ça à la roulette.
On y va.
C'est la phrase de belle-mère. Ce qui n'est pas confirmé par le hasard n'a aucune validité. On peut l'appliquer au livre de Gilbert.
Oui, d'ailleurs, j'ajoute, avant d'écouter Fitzgerald, que je suis un grand lecteur de Roussel, de Raymond Roussel.
Ah, bien sûr, monsieur.
D'ailleurs, j'emploie très souvent des...
Mais monsieur, je vous ai promis au niveau du mail de disséquer, d'écorcher votre œuvre, mais j'ai noté ça aussi. J'ai noté trois noms. Et après, Monique va nous lancer la musique, et là, Fitzgerald, c'est quand même là. J'ai Roussel,
oui.
L'autre est Hamon,
oui. Et Brisset.
Mais oui, mais tout est là. Voilà. Hein. Et Rilke. Qui ? Rilke. Un Autrichien, pas. Oui. Normal. Non, non.
Oui,
on ne peut pas, monsieur Bouffon, avec un crochet, fouiller un terrain vague sans passer par le livre de la pauvreté et de la mort.
C'est vrai.
C'est pas possible. Alors arrêtez, monsieur Bouffon. D'accord.
Mais c'est sans conscience.
Don't know what love is until you've learned the meaning of the blues, until you've loved a love you had to lose. You don't know what love is. You don't know how lips hurt until you've kissed and had to pay the cost, until you flipped your heart and you have lost. You don't know what love is. Do you how a lost heart fears the thought of reminiscing, and how lips that taste of tears lose their taste for kissing. You don't know how hearts burn for love that cannot live yet never dies, until you faced each dawn with sleepless eyes. You don't know what love is. Do you dies, until you faced each dawn with sleepless eyes. You don't know, you'll never know, you should know.
Mais ma chère Monique, qu'est-ce que je suis en sueur au 01 43 71 89 40 avec toutes les obscénités que mes invités peuvent dire, y compris monsieur Jacques Coda qui a eu un rapport, qui vient de m'avouer d'avoir eu un rapport absolument intime avec Sheila.
Sheila, voilà. Et comment dire, je ne sais plus, j'en perds mes moyens.
Vous entendez mon
moyen. Je disais tout simplement que c'était bien une femme. Voilà.
On ne peut naturellement pas considéré que le chiffonnier, le chiffetier, monsieur le Biffin, aujourd'hui Gilbert Bourson avec nous, fait partie de la bohème. Vous n'êtes pas partie de la bohème, hein, parce que vous avez une structure mentale, une structure, mais de l'écrivain au conspirateur de profession. Celui qui appartenait à la bohème pouvait retrouver dans le chiffonnier une part de lui-même. Chacun d'entre eux se trouvait en révolte, plus ou moins sourde contre la société, affronté à une existence plus ou moins précaire. Il pouvait, au bon moment, se sentir en accord avec ceux qui ébranlaient les assises de cette société. Le chiffonnier, monsieur Bourson, n'est pas seul dans son rêve. Il est suivi de compagnons. Une odeur de futaille, ça c'est vous, les parfums, eux aussi. Et aussi, on blanchit dans les batailles, sa moustache pend un peu comme un vieux drapeau. Il rencontre dans sa ronde des mouchards qui sont dans son rêve devenus des sujets. On va couper là. C'est Walter Benjamin, hein, c'est livre indispensable, vous êtes d'accord avec moi.
Sur Baudelaire.
Baudelaire. Hein.
Ah oui, non, ça,
voilà, voilà. Est-ce que c'est de la bohème est-ce que votre chiffonnier est de la bohème ou alors c'est un bohème dandy?
Je crois les deux.
Bien sûr.
Je crois les deux. Bon, de toute façon, à partir du moment où, on manipule le langage écrit, on est bohémien d'une certaine manière.
Oui, oui.
Bohémien du
chiffonnier. D'autant que les chiffonniers au 19e.
Oui, parce qu'on saute d'un sens à l'autre. Donc,
Jacques.
Oui, je disais que le chiffon au 19e servait à faire le papier.
Donc,
du chiffonnier au livre, la conséquence est bonne, comme on dit en rhétorique.
C'est Walter Benjamin. Hein.
Voilà, ah oui, voilà, voilà,
voilà. C'est très politique tout ça.
Mais oui.
C'est très politique. Vous savez, l'histoire est très belle, c'est que Walter Benjamin, il travaille avec Adorno à Francfort, etc. Il a du pognon. Il a du pognon et puis la mode est au marxisme. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre Baudelaire. Il prend Baudelaire et il tire tout vers l'économie, le marxisme et tout ce qu'on voudra. Et jusqu'à faire une analyse du fin des chiffonniers ou du fin de l'assassin, je ne sais pas trop. Et à un moment donné, il analyse tous les transports. Et c'est très magnifique. Hein. C'est Benjamin, c'est une autre dimension, c'est pas n'importe quoi. Et Adorno lui dit, mais calme-toi, on peut pas analyser Baudelaire comme ça. Comme ça. Le chiffonnier, c'est tout le terme. Et là, Jacques a raison. C'est tout le terme. Il y a un terme politique, un terme économique.
On récupère.
Mais vous, votre inconscient, monsieur Bourson, c'est un terrain vague.
Oui, tout à fait. C'est un terrain vague. D'ailleurs, c'est là-dedans qu'on trouve les meilleures pièces. Alors, justement, par rapport au titre...
C'est une escroquerie, monsieur.
Voilà, alors, j'ai voulu être escroqué, effectivement, le lecteur, parce que il va tout de suite penser qu'il s'agit d'un livre qui parle...
De la Chine.
Ça parle de la Chine.
Voilà. Oui, mais ça parle surtout de Chine.
Bien sûr. Alors, vous dites... Qui a rédigé la quatrième de couverture?
Je me souviens plus. C'est peut-être bien moi.
C'est ou Gilbert ou...
Oui, c'est moi.
C'est toi.
Vous trouvez Chine, chaîne, sur, chantier.
Oui.
Marqué.
Oui.
Ne me dites pas non.
Non, je ne dirai jamais non.
Il est capable. Au départ, c'est un comédien. Il est capable de... vous savez qu'il y a une étrange théorie qui vient d'Aristote ou je ne sais pas quoi, où l'étymologie n'existe pas. Et on doit accorder le mot avec ce qu'il évoque. Mais c'est absurde, stupide, mais extrêmement poétique. C'est-à-dire, une cafetière, puisqu'elle fait chouchou, on doit l'appeler chouchou.
Oui.
C'est génial.
Oui.
Et ça va demeurer. Et là, vous êtes dedans. Parce que Chine, Chiné, Chur, Chantier, etc., vous êtes dedans.
Ah oui, bien sûr. Oui. Oui, d'ailleurs, Oui, Chiné, c'est aussi une recherche d'exotisme. C'est-à-dire qu'on recherche ce personnage que je répugne à appeler le héros de mon roman, puisque de toute façon...
C'est un roman, c'est pas un roman, vous le dites vous-même.
Alors voilà, j'ai pris des
notes. Moi j'ai la page aussi, arrêtez monsieur.
Oui. Alors d'abord, je pense qu'on peut l'appeler roman parce qu'il raconte une histoire... d'une certaine manière. Il raconte l'histoire de cette petite horde de chineurs. Et puis il raconte aussi l'histoire de...
Considérons que nous sommes en présence d'un texte plus poétique que vraiment romanesque.
Tout à fait.
C'est vous qui l'avez écrit, monsieur
oui,
Bonson.
Oui.
Encore que les personnages de cette quête, car c'en est une, sont des personnages, comment dire, enfin des personnages que l'on peut rencontrer dans un récit fantastique ou par exemple de rêve, étant donné le flou de leurs contours. C'est toujours vous, hein, moi je suis innocent, farfelu, ça c'est vous, qu'ils font tout au long de ce parcours qu'on hésite, qui semble être le guide, être et double, étant à la fois d'un côté celui de la quête, donc de ses compagnons. Donc c'est vous qui écrivez tout ça.
Oui.
Vous êtes double par rapport à... Vous êtes dedans et en dehors.
Ah oui, oui. Ben, on peut... Aujourd'hui, d'ailleurs, je pars en guerre contre toutes les étiquettes. Je me souviens, à une certaine époque, dans les années 60, on parlait de texte. On ne disait pas roman, voilà.
Il y a encore une revue qui s'appelle Textuel, hein, d'ailleurs, qui existe toujours.
Oui, okay. mais on met encore... on pose la question, est-ce que c'est un roman, votre livre? Alors, je peux répondre oui, puisque, effectivement, ça raconte plein d'histoires, d'ailleurs. Ça raconte même l'histoire des lecteurs, notamment. Alors... Ça, on peut l'appeler poème aussi, ou prose poétique, c'est ce qu'on appelle, c'est comme ça qu'on parle de certains livres aujourd'hui, d'écrivains qui...
Non, on va dire que c'est un roman, non.
Voilà.
Hein. Beckett, il appelait ses livres des romans.
Aussi. Mais tout à fait, oui.
Il a écrit l'innommable, c'est-à-dire, il est dans le non-mot, mais au bout du compte...
Et comment ça, il l'appelle aussi un roman.
Absolument. Ce qui l'intéressait, c'était d'écrire l'échec, de ne pas pouvoir écrire.
Bah, tout à fait,
compte.
Bien sûr, oui.
Donc on en est là, et on en est là dans Chine.
Mais quelle gueule et quel style que Beckett.
Pardon ?
Quelle gueule et quel style que Beckett.
Ah, bien sûr.
Oui.
Ce qu'il appelle le non-mot. Oui. Parce qu'il s'oppose à Ulysse, qui était dans l'apothéose du mot.
Ah, bah oui.
Quand tu énumérais la Chine, Chausson, j'ai plus Chure et tout. Là, je ne sais pas d'ailleurs où est ta frontière, toi, si tu es dans le non-mot ou dans l'apothéose, où tu te situes. Là, tu es un peu entre les deux. Hein,
oui, parce que c'est vrai que je suis resté notamment ce qu'on appelle un baroque.
C'est ça.
Voilà, donc avec un intérêt profond pour le mot.
Alors que Beckett, il est plutôt dans ce qu'on appelle la corde le plus tendue du baroque,
voilà,
c'est-à-dire
oui.
il l'a tiré au maximum.
Oui, d'ailleurs, il passe de l'anglais au français pour éviter.
D'accord, il dit que le français c'est plus facile pour
ne
pas écrire.
Voilà. Alors que si on lit les premiers poèmes de Beckett, il n'y a pas plus baroque.
Absolument.
Petite parenthèse, deux parenthèses, Monsieur Coda, si vous le permettez.
Je vous en prie.
Toute sa vie, dans sa jeunesse, Beckett va régler un compte avec le barde Yeats.
Oui.
Yeats qui a eu le prix Nobel de littérature, etc. Oui. Toute sa vie, il est jeune, etc. Comme on fait les surréalistes par rapport aux autres, il règle un compte. Et à la fin de sa vie, Beckett, je ne sais même pas s'il est encore à sa maison de repos entre guillemets, va écrire un texte. Qui est un texte, un hommage à Yeats, avec un texte extrêmement classique. Il revient. Dans toute la négation du langage de Yeats, il revient au classique. Comme ça.
Oui.
Et petite parenthèse, c'est sur les nuages. Et petite parenthèse, à la fin de sa vie, Beckett va finir dans une maison de repos.
Oui, c'était triste.
Il y a une dame, et c'est là qu'on peut rire de la chose, il y a une dame qui vient, qui cherche des champs, et puis lui, il continue à tirer sur le whisky.
Ah, oui.
Mais vous savez ce que c'est, monsieur Bourson, je ne veux pas vous accuser au micro, ni monsieur Coda, ça sert à rien. Et il y a une dame qui erre dans les... et qui dit, je cherche l'écrivain anglais.
Ah bon,
c'est génial. Et Samuel Beckett, ce qu'on a fait de mieux, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, c'est pas si mal que ça. Non, mais c'est un peu mieux que chez là, mais... sérieusement
pied, mon pied, j'étais pas là. Hein. Mon pied, j'étais là, on passera rapidement.
C'est vrai.
Vous qui êtes un Célinien convaincu, quand on voit Beckett, on se tait. Voilà, donc, merci. C'est Jacques, ça a plus de vous voir. Voilà. Et tout le texte est là. Et là, vous le dites dans votre texte. Je vais vous lire dans le texte, si vous voulez bien. Voilà. Vous dites à un moment donné,
c'est moi, je prends au hasard, c'est pas au hasard parce que j'ai mis des flèches. C'est moi qui, bon, passons, revenons au récit lui-même, interrompu par des guignols des personnages farfelus qui sont autant de, disons, de fantômes entéléchis, hantant cet espace de l'imaginaire, enfin celui du héros ou de l'auteur, disons. Que nous sommes dans ce no man's land, entre le symbolique et la fantaisie gratuite, une espèce, disons, de désastre, comme un tsunami dans cette fourmilière du langage et de la langue, le capharnaüm langagier, ou chiné parmi les luzernes folles du désir ou de la pensée, alors ça, on arrive, se fait l'image, selon la formule de Benjamin, image de la pensée. C'est-à-dire que la pensée n'est qu'image.
Oui, oui,
pour
oui.
Vous. Vous n'avez pas de pensée. Je vous reçois sur Radio Libertaire, vous n'avez pas de pensée, M. Bourson.
Ah non, j'ai aucune pensée. Enfin, je n'ai aucune opinion, disons. Non, j'aime bien cette idée comme ça d'image de pensée. Et j'adhère totalement à ça. La pensée, c'est fabriqué aussi avec les images, avec les sons. Ça se fabrique, une pensée. Oui, ça s'usine quelque part, mais ça tombe pas comme ça. Ça tombe pas du ciel. Voilà.
Et même l'image fabriquée peut servir de pensée. Là, je lisais les premières critiques de Badiou sur le. Il passait son temps au cinéma et dès qu'il s'est formé comme philosophe au cinéma, avec des images fabriquées. Là. Mais l'image est un concept pour lui.
Ah mais oui.
Et il a avancé en philosophie grâce au cinéma.
Oui, oui. Alors, c'est drôle parce que mon premier contact avec l'art, c'est le cinéma.
Oui, c'est-à-dire que beaucoup, moi aussi, voilà. J'ai fait une école de cinéma, j'ai fait des films. Ah, oui. Une école de formation philosophique. Voilà. Je faisais philo et cinéma en même temps. Mais l'image a été. Bon, Godard, par exemple, disait l'équipe ou Libé pour les photos.
Oui, 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 oui.
Donc,
moi, ça a commencé par Fritz Lang.
Jacques Debord aussi, Debord.
Oui, oui. Enfin,
ça va être l'explication de Debord dans son monde, hein, d'une certaine façon. Hein.
Guy.
Oui, oui. Hein, Guy Debord.
Oui. Guy Debord.
Jacques, c'est moi.
On connaît Guy Debord.
Oui, mais tu m'as dit Jacques. Donc je croyais que tu m'appelais Jacques Debord.
Non, pas du tout.
Non, mais je sais que j'ai une dimension.
Je vous interpelle, Jacques, avec ce côté Michel Simon, qui est le
mon petit pigeon.
D'accord. On va y revenir. Est-ce que, quand on lit Walter Benjamin, qui récupère Baudelaire, on sait très bien que Benjamin donne un sens politique au chiffonnier. Est-ce qu'il y a un sens politique, au sens réel du terme, pas la droite et la gauche, on s'en fout, est-ce qu'il y a un sens politique à tout ça?
Je crois qu'il y a un sens politique dans tout. Voilà,
bien sûr. Alors là, sauf M. Kodak, il ne sera pas d'accord, parce que c'est un mystique. Nous, on sera d'accord.
Par contre, derniers...
Je suis un mastique, moi.
Dans les chapitres où mon personnage, c'est-à-dire moi-même d'ailleurs, signe son livre... Je fais une critique terrible, quand même, je pense, du monde de la culture. Parce que là, il y a une surconsommation imbécile de la lecture, ou alors de la lecture qui n'a pas lieu, d'ailleurs.
Bien sûr,
ils achètent des livres.
On appellerait les bien-pensants par rapport à la culture. On n'en a rien à foutre.
Ah oui, absolument.
On n'en a rien
à
foutre, bien sûr.
Et là, quand même, je le
Tu le dis en quête de couverture, je crois, à la fin, hein, c'est ça.
Il dit beaucoup de choses, mais c'est un très beau livre. Hein.
Je l'ai publié
difficile,
un peu.
C'est un livre difficile.
Pour cela.
Allez-y, monsieur.
Publié parce que c'était un très beau livre.
Vous prenez vos responsabilités. Vous êtes directeur de collection.
C'est vrai, c'est aussi, oui.
Pourquoi vous l'avez publié?
Parce que c'est un très beau livre.
Ce machin que j'aurais foutu à la poubelle, monsieur.
Ça a été mon premier geste, et en plus, mais en approfondissant la chose, j'ai trouvé qu'il méritait de survivre. Au néant.
Ben vous dites à un moment donné, monsieur, vos responsabilités, vous les prenez. Vous dites que c'est pas un récit, c'est un poème. C'est un poème. Il y a du souffle dedans. C'est le souffle constant. C'est le langage. C'est le monsieur qui a mis. Ne vous défilez pas, monsieur Bourson. Vous avez mis en scène, je crois, le quatrième chant de l'autre.
De Maldoror, oui.
Maldoror. Alors, quelle influence là-dessus? Il y a une influence. Moi, je l'ai senti depuis le départ.
L'influence de Lucas. Oui, Lucas. Oui, bien sûr, oui. Ben, il y en a de multiples, d'autant que D'autant que ça a été écrit à l'époque où j'essayais de sortir du nouveau roman, mais j'y étais encore, avec Pinget par exemple, j'étais encore très influencé par le nouveau roman. Alors que dans les premiers chapitres, où ma horde de biffins...
Vous êtes un biffin, monsieur ?
Je suis complètement un biffin.
Remarquez-moi aussi, et monsieur Coda, je crois aussi, est un biffin.
Je suis un biffin, mais je suis un écrivain. Donc, de toute façon, c'est la même chose. Voilà, oui, donc... Qu'est-ce que je voulais dire à propos de celui-là ?
En effet.
Tu parlais du nouveau roman.
En effet, je m'enfuis au loin avec une conscience désormais implacable. Et il y a, avec 14 ans, avec une conscience désormais implacable, chaque nuit, lorsqu'un jeune homme qui aspire à la gloire, dans un cinquième étage, penché sur sa table de travail, à l'heure silencieuse de minuit, perçoit un bruissement qu'il ne sait à quoi attribuer. Il tourne de tous les côtés, sa tête alourdie par la méditation et les manuscrits alourdis par la méditation et les manuscrits poudreux, mais rien. Aucun indice surpris ne lui révèle la cause de ce qu'il entend si faiblement, quoique cependant il l'entende. Il s'aperçoit enfin que la fumée de sa bougie, prenant son essor vers le plafond, occasionne à travers l'air ambiant les vibrations presque imperceptibles d'une feuille de papier accrochée à un clou figé contre la muraille dans un cinquième étage. De même qu'un jeune homme qui aspire à la gloire entend un bruissement qu'il ne sait pas à quoi attribuer. Ainsi, j'entends une voix mélodieuse qui prononce à mon oreille « Maldoror ». Mais avant de mettre fin à sa méprise, il croyait entendre les ailes d'un moustique penché sur sa table de travail. Cependant, je ne rêve pas, qu'importe que je sois étendu sur mon lit de satin. Je fais avec sang-froid la perspicace remarque que j'ai les yeux ouverts, quoi qu'il soit à l'heure. Des dominos roses, des balles masquées. Jamais, oh non, jamais une voix mortelle ne fit entendre ces accents séraphiques en prononçant avec tant de douloureuse élégance les syllabes de mon nom. Les ailes d'un moustique, comme sa voix est bienveillante. M'a-t-il donc pardonné ? Son corps à la cogner comme le tronc d'un chêne. Maldoror.
Bravo.
Magnifique.
Quel lecteur. Oh bah oui.
Et franchement, on s'est eu au téléphone, on s'est eu en mail tous les deux. Tout ça. Et quand j'ai lu votre texte, là vous pouvez pas me tromper non plus. Hein, sur... Je me suis dit, tiens, j'ai pensé à ça. Et j'ai regardé à la fin, j'ai dit, tiens, il va à l'aventure comme l'autre Raymond était à l'aventure.
Oui.
Un bon compliment. Hein.
Oui, tout à fait. Oui.
Voilà. Oui. J'avais été à l'aventure, t'as la. Voilà, magnifique. Oui. Le lectorat éventuel, on s'en fout.
Oh, complètement, oui.
On le trouve, parce que je suis là, j'ai mal de Maldoror 200 ans plus tard.
Oui.
Voilà. Un jour, j'ai fait une émission avec M. Coda.
Non, vous ne vous souvenez pas.
Vous étiez là.
C'est vrai.
Et il y avait un individu qui avait fait un numéro spécial Rimbaud, dont je vais dire le nom, le monsieur qui était là. Il n'a pas très grande importance. Et je dis à M. Coda, qui était trouvé là, je dis, mais tu as lu Maldoror ?
Je ne sais pas qui c'est.
Il me prend l'air un peu... Non, je sais quoi. Il me prend l'air... Et j'ai raconté... écouter l'enregistrement, je l'ai repassé.
Parce que c'est ma voix qui te trouble.
Contrairement à votre inculture générale, monsieur Conan, vous savez très bien qui c'était.
Jean Maldoror.
Ce qu'on va faire. Ça vous va, monsieur?
Ah oui, tout à fait.
Ce qu'on va faire, maintenant que vous allez travailler, parce que vous n'avez rien foutu jusqu'ici, monsieur.
Comme d'habitude.
On va écouter la Fitzgerald, c'est bien.
Again.
Et vous allez prendre vos responsabilités sur deux ouvrages.
Deux.
L'un de l'ami Éric Tessier.
Éric Tessier, oui.
Et puis notre ami belle-mère.
Belle-mère et beau-père, oui.
Il est bien, belle-mère.
Non, il est bien, oui.
Le livre est magnifique.
Tu as aimé?
Ah, très bien.
Les illustrations,
très bien,
les dessins, c'est pour colorier, c'est pour les enfants.
C'est vous qui avez fait les dessins,
J'ai fait une partie des dessins.
Ce que je vous propose, monsieur Coda, c'est qu'on on va écouter un peu de musique.
Oui, on va se détendre.
On va se détendre, parce que vous allez être sur les nerfs et
c'est
ça
vrai,
va pas du tout.
C'est vrai, je suis très très angoissé.
Et ce qu'on va faire, vous allez prendre, nous parler
de qui ? D'Éric Tessier ?
Un magnifique livre.
Qui est ton ami ? Donc,
c'est le plus mauvais, plus mauvais écrivain depuis
très
longtemps.
Je vois que tu as le premier... C'est pas celui-là dont je voulais
parler. Non, c'est pas celui-là, mais je tiens à le dire. C'est mon, non seulement c'est mon avis, c'est mon avis, c'est mon ami, et c'est mon ami, c'est ça, Monique.
Elle se marre.
Non, mais c'est ça, on verra ça plus tard. On verra, c'est pas la première fois. Je raconterai rapidement. J'en profite. Écoutez, Pierre, on est après musique. Hein.
Ouais.
Un jour, je décide. J'arrive à faire enfin venir Eric Tessier au micro.
Ah oui, il ne veut pas bouger.
Ouais. Et un jour, j'annonce comme ça, Eric Tessier viendra. Et Monique me dit, la semaine prochaine, ce n'est pas pour toi que je viens, mais c'est pour Eric Tessier.
Ah.
Eh, franchement, dans quel état ? Mais merci, Monique, merci.
Treat me like you do, to break my heart in two. Who are you to taunt me night and day with strange allures? Who gives you the right of way to say I'm yours? Who are you to make my love so tense, to keep me in suspense the way you do? And that's exactly who you my love so tense, to keep me in suspense the way you do. You think you were an angel from some falling star, and that's exactly
exactly who you are. Eh bien, merci Monique, un peu d'autorité, je sais que vous l'avez, cette autorité, elle vous prend comme ça. On va revoir Monique le 2 octobre, on va faire une émission avec Claude Brabant et Triboulet, un nouveau numéro de la revue Empreinte. Il y a plein de choses, c'est émouvant, etc.
Je peux dire quelque chose à propos de cette revue. Dans le numéro d'octobre, il y aura des textes de M. Roger Mathieu, qui a fait le Belle-Mère, et un article critique de Claude Brabant à son propos.
D'accord. Parenthèse, je ne vous demande pas votre avis, monsieur.
Si, mais je le donne, parce que je prends mes responsabilités.
Vous serez aux écoutes le 2, puis Monique sera là. Et puis le 9, nous recevrons Mona Huerta, Abdoulkader El-Janabi, pour le dernier numéro de Libertaire. Ce sera In Toto. Il y aura un dossier consacré à Jimmy Gladiator et puis aussi au désir libertaire, je viens de le dire, comme ça. Et on verra ce qu'il advient du surréalisme. Est-ce qu'il est asphyxié? Est-ce qu'il n'existe plus? Est-ce qu'il est bégayant? Je vois vos yeux, monsieur.
À ma mine contrite.
Et puis on n'est pas loin, bien sûr, c'est contrit, bien sûr, c'est très bien. Très bien. Et on va voir ça. Où ça en est? Alors que les bases du véritable surréalisme sont inaltérables. Elles sont magnifiques.
Nous sommes d'accord.
On est d'accord?
Ah oui, complètement. Ah,
très bien, d'accord. Est-ce qu'il y a, bien sûr, là, pour une fois, monsieur Coda, nous serons d'accord. Ce sera un plaisir avec
partagé,
vous.
Partagé.
Maintenant, pour la bande d'illettrés qui nous fait face, c'est-à-dire monsieur Bourceau et monsieur Coda. Oui. Je n'ai pas posé la question, on peut y aller.
Oui.
Vous ne le savez pas, vous ne connaissez pas, ce n'est pas de votre faute. Vous allez y remédier, monsieur Bourson. John Fante, ça vous dit quelque chose?
Un petit peu, oui. Voilà.
Alors, je vous raconte des choses.
Anna Merlock, humaine.
Mais taisez-vous, ça va. Je vous raconte deux choses. Non seulement je reçois plein de...
Tu as reçu John Fante?
Je reçois plein de services de presse que je ne peux pas assumer, etc. Mais il y a aussi, moi, ce que je lis, ce qui me surprend, ce que je relis. Et puis là, donc je suis dépassé par, je sais pas. Et puis voilà, j'ai lu Jeune Fante, que je connaissais pas.
C'est
magnifique.
Bon. Ah oui, c'est
relisez bien. Demande de la poussière, chef-d'œuvre. 145 pages, vous tournez, c'est 10-18, etc.
Oui, il y a tout.
Je connaissais absolument pas. C'est une merveille.
Voilà.
Une merde.
C'est ça
qui est bien. Dès qu'on nous a dit un jour que la littérature était finie, le verbe était fini, vous tombez dans Jeune Fante, vous tombez. C'est absolument. Et puis, je vais vous faire plaisir, monsieur Coda. Vos perversités.
Oui, et perversions.
Et les usages que vous avez dans certains établissements de la place de Clichy.
Avec Céline.
Non, je le connais. Et je viens de relire. Et je pense que tout le monde l'a lu. Jour tranquille à Clichy de Miller.
Henry.
Magnifique.
Merveilleux, oui.
Non, vous vous souvenez?
Ah, bah oui.
Si. Voilà. Moi, je ne dirais.
Non,
je parlais, de Claude Chabrol et du film dont nous avions parlé tout à l'heure.
Et on parle, par rapport à la morale actuelle.
Oh, voilà, oui.
Il y a ces deux gaillards qui sont perdus. Après la guerre, qui erre dans Clichy. Mais ils font des choses pas possibles. Je vous l'accorde, mais si possible, M. Codal l'a fait, vous aussi, moi aussi. Mais pas possible pour une morale. Et il y a une tendresse. Et puis une science du verbe. Une science, je te raconte. Et ces pauvres gens qui nous font la morale du matin au soir, c'est pas possible.
Oui.
Et on est aussi réunis pour vous, monsieur. Bourson et M. Coda surtout, et nous en particulier, comme ça, par rapport à Éric Tessier.
Oui.
Il fait une œuvre. Il est dans son coin, etc. Vous me l'avez rappelé, c'est mon ami. Je l'assume, malheureusement.
J'ai des tares. Vous êtes confié.
Et un jour, on a fait une émission comme ça. La première fois que je l'ai reçu à ce micro-là, il y a des colonnes Meurice à côté, où c'est marqué génial, etc. Et j'avais reçu Éric Tessier au micro, et j'ai dit, t'es plus mauvais écrivain, ça sert à rien. Voilà. Effectivement. Alors, monsieur attrape sa victime par les oreilles et imprime une sévère mouvement de va-et-vient à la tête qui s'amollit par asphyxie. Il enfonce plus avant, dans la trachée, comme s'il voulait atteindre le cerveau. Ah, alors ronfle dans les poumons de la fille. Monsieur ferme les yeux, car son remonte le long de son pénis qui l'agace délicieusement, accompagné bientôt du sperme qui s'en sert plus à temps, gicle de la boîte crânienne. Plus tard, monsieur est affaibli devant le plateau, repas, il mord dans une cuisse de poulet, mangeant rapidement, par petites bouchées pressées. Le repas est terminé, il s'allonge sur le lit contre le cadavre et l'enlace avant de s'endormir. Si personne ne comprend qu'il y a de l'humour,
Comme dans ça, tout ce qui écrit ça est humour, a dit ton ami Philippe Solers.
Après, je vous laisse la parole sur
la suite. C'est bien que sur ça, c'est bien que tu aies lu ça parce que dans la suite dont nous allons parler, qui s'appelle Les années clandestines, le monsieur devient la victime. Hein, et Juliette est devenue végétarienne, ce qui est épouvantable. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Éric Tessier.
Il mange des carottes depuis, vous ne savez pas ça?
Donc, il y a une espèce d'inversion, voilà. Et c'est la suite des aventures de monsieur qui continue son parcours.
Année clandestine.
Oui, année clandestine, voilà. Donc, chez Douro, c'est la suite de l'extase du prédateur, avec toujours les aventures de monsieur qui est Sade. Hein. Ça se termine à Charenton. Donc, et surtout, ce qui est mis en valeur, c'est la confrontation de deux époques, les années révolutionnaires et le monde d'aujourd'hui. Et il attend le grand soir dans ce bouquin, monsieur Tessier, qui ne vient pas, évidemment. Mais on essaie, et donc il met ces deux époques en parallèle, qui se terminent sur un échec total, sur Sade à Charenton, voilà,
avec dans un style, monde clos. Avec un style et une exigence du langage total.
Absolument, 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 c'est très bien écrit.
Oui, j'aime beaucoup le
prédateur.
Le prédateur, bon, cette espèce, cette éjaculation du cerveau.
Très bien, vous avez dit un mot qu'on comprend enfin sur Radio Libertaire.
Éjaculation, c'est vrai.
Éjaculation. La pensée, on ne comprend pas.
Et dans les années clandestines, il fait allusion au Vésinet. Je crois qu'il est né au château.
Il n'est pas né sur le château, ce n'est pas un châtelain. Il est comme
à Château.
Ah bon, d'accord, je croyais qu'il était
né comme marquis, ce
pauvre garçon.
Et Vésinet, j'y étais il y a peu. Il y a la Maison Rose de Montesquieu. Je ne sais pas si c'est à ça qu'il faisait allusion.
Voilà. Non, il a vécu son enfance sur ce qu'on appelle les bords de la Seine. Et vous, qui aimez énormément
beaucoup.
Le cyclisme.
C'est très joli. Oui, il y avait une course
cyclisme.
Absolument.
Voilà. Et monsieur Éric Tessier ne la voyait jamais parce que même enfant, il était ivre mort au premier café. Et c'est là qu'il a tiré.
Ça m'étonne pas de lui. Dans son livre, on sent qu'il y a des relents d'alcoolisme.
Hein. Moi, je dis qu'il y a des relents d'alcoolisme.
Bonjour Éric.
L'extase du prédateur, c'est magnifique.
Fantastique.
Vous l'avez lu?
Oui, bien sûr.
Très bon livre qui aurait mérité d'avoir le prix Sade, qui a concouru, voilà. Mais bon.
Voilà. Et puis les années clandestines.
Qui est la suite, voilà. La suite avec
et
des
là,
inversions.
On revient à vous, monsieur Bourson. C'est-à-dire quelqu'un qui écrit sans se préoccuper du lectorat.
Oui.
Il n'a rien à foutre du lectorat, il écrit. C'est le véritable écrivain solitaire qui écrit, et il le fait très bien parce qu'il a une conscience de la littérature.
Oui, oui, oui. Il s'en fout au point qu'il ne vient même pas défendre son livre sur les ondes de Radio Libertaire. C'est de Jean-Foutisme total.
Il était à côté, mais il s'est arrêté au bistrot à côté.
Ah, d'accord, je comprends mieux. Il sera tout excusé.
Et ça, c'est aux éditions de Grosse.
Ça aussi, oui, c'est chez La Bleue Turquin.
Moi, je tiens, je vais vous le faire au micro, une critique. Par rapport aux éditions d'Ouro, j'aime bien le faire. Vous ne serez pas licencié demain, rassurez-vous, monsieur.
Non.
Je veux dire que la diffusion des éditions d'Ouro, c'est très difficile. Très difficile que le rapport de l'éditeur, monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle.
Cardocho, Antonio.
Antonio.
J'étais avec lui
il y a deux d'avoir heures. Un phénomène plus convivial et plus fraternel par rapport
à... Parce que tu as des soucis avec
plutôt,
Antonio
plus d'auteurs, plus d'exemplaires d'auteurs, etc. Et les gens pourraient diffuser leur
c'est pas facile.
Leur exemplaire. C'est pas facile, c'est clair. Mais ce que je le défends...
Oui, d'autant qu'il est dit ton avis, Éric Tessier, mon cher Gilbert. Il t'a même édité,
il a fait deux catastrophes dans sa vie, c'est moi-même et Monsieur Bourson. D'accord. Mais je veux dire, vous êtes protégé, vous savez vivre dans cette société. Je vous rattrape parce qu'à midi j'ai mangé avec une charmante dame qui vous a lu. Votre dernier livre.
Lequel?
Catastrophique.
Florbelle. As-tu
reçu, là.
As-tu Florbelle, lu déjà?
Elle m'a quitté en me disant le pauvre Coda. Je ne sais pas ce que ça veut dire, on va y revenir.
Donne-moi le nom de cette dame que je m'occupe de son, de son CV.
On va y revenir. Monsieur Bourson, vous restez là.
Oui.
Donc.
Oui, on parle de belle-mère ou de Florbelle?
Non, on va commencer par Hans Belle-mère.
Hans,
c'est un plaisir. Et vous savez, la douleur. Ah, c'est bien, on a le droit. La douleur que j'ai par rapport à la littérature, et vous l'avez aussi, parce que je vous ai lu à plusieurs reprises, monsieur Bourson, c'est que ce qui est raconté dans ce livre, bien que je ne l'ai pas vécu parce que ce n'est pas mon époque, j'entends le cri de la défenestration.
De Onikazun à la Nation.
C'est près de chez vous et de chez moi.
Oui, là-bas, au-dessus du Monoprix.
Et
non, oui.
Voilà. On, hein?
C'est au-dessus du Monoprix Nation.
Est-ce que vous pourriez
évoquer
très rapidement, parce que je me suis aperçu d'une chose horrible, c'est que personne ne savait qui était Audrey Hepburn.
Ah bon?
Et en ce belle-mère, c'était un peu plus. Est-ce qu'on on le fait rapidement ensemble?
Bon, oui, bah, écoute, c'est assez simple. C'était la compagne de Hans Bellmer. Pendant une trentaine d'années, je crois, ils se sont rencontrés assez tôt. Elle était divorcée. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails. En tout cas, ils ont vécu ensemble et ça a été un de ses modèles.
Hein. Ils sont allemands tous les deux.
Ils sont allemands tous les deux. Oui, 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 absolument. Ils sont allemands tous les deux. C'est une dame qui a eu assez vite des soucis psy. Déjà avant de le rencontrer, hein, elle avait eu des soucis. Elle-même s'est mise à l'écriture et au dessin. De façon d'ailleurs assez remarquable, hein. Ses dessins sont très beaux. Et il l'a initié à l'écriture anagrammatique, c'est-à-dire, tu sais, quand tu prends des lettres et tu prends les mêmes lettres pour écrire d'autres mots, tu connais ce que c'est, les anagrammes. Et surtout, elle a été donc internée.
Très tôt,
assez rapidement. Elle avait une pulsion de mort terrible. Hein. Elle parlait que de mourir. Elle voulait même que belle-mère et elle se suicident ensemble, etc., etc. Lui fait un AVC. Il reste hémiplégique.
C'est en quelle année?
C'est dans les années 60. Attends,
environ. Parce que je me suis aperçu, c'était vraiment très tôt. Hein.
Je vais te dire, parce qu'il y a Étienne Ruot qui participe à la postface. Donc, belle-mère meurt en 75 et elle se défenestre en 70.
C'est ça, très voilà, tôt. Hein, voilà, c'est très tôt, voilà, c'est très court. Voilà, c'est pour ça que je te dis que moi j'entends toujours le cri.
Le cri de.
Ce cri qui a été poussé avec Steve. Alors qu'est-ce qui se passe?
Elle est en psychiatrie, elle a une permission. Elle vient. Donc il a acheté un appartement, lui, rue de la Plaine.
Dans le
20e, au 5 ou 6e étage. Je crois que c'était le 5e. Et donc ils discutent toute la nuit. Hein, et au petit matin, belle-mère est dans une pièce, dans son fauteuil. Il ne peut pas bouger, il est hémiplégique, je le rappelle. Elle va dans l'autre pièce, elle ouvre la fenêtre et elle se jette donc du 5e étage.
Lui n'entend rien.
Il n'entend rien. Il ne sait pas que. Elle est retrouvée par la. Il y a une dame qui fait les courses parce qu'il est coincé, hein, belle-mère. Et elle voit sur le trottoir donc Onika et elle monte et donc elle annonce à belle-mère que. D'accord. Elle est passée par la fenêtre. Et là, le livre que je publie chez Basquin, j'allais dire, non, dans la Bleue Turquin, c'est la collection de Joseph Nozarzewski, qui était le kiné de belle-mère jusqu'à ses derniers jours. C'est-à-dire, c'était lui qui le lavait, qui lui coupait les ongles de pied, qui le rasait, qui s'est occupé de lui jusqu'à la fin. Et donc, il a eu quelques dessins qui sont dans le livre.
Ils sont beaux. Le livre est très bien fait. Je ne sais pas si vous l'avez vu, monsieur. Je vous ai dit, monsieur Bourson, antenne. Excusez-moi, ça sera pour du rap.
Donc, il a une collection qu'il n'avait jamais réussi
C'est magnifique.
Et donc, je suis allé chez ce monsieur qui est notre voisin aussi. Il habite le 20e, hein, Joseph. Et donc, j'ai photographié toute sa collection.
C'est magnifique. Hein,
et les textes donc, qui sont en regard des dessins, qui sont ou de belle-mère ou de Onika, sont écrits par Roger Mathieu, dont je parlais tout à l'heure.
Gilbert, ça t'inspire belle-mère ou pas?
Ça m'intéresse, mais bon,
sans plus,
c'est que bon, j'ai des auteurs qui effectivement ont sur moi. Un effet absolu. Ça m'intéresse.
Une phrase de belle-mère qui va t'intéresser, il parle des anagrammes. Donc, parler à l'envers veut dire sodomiser le verbe jusqu'à ce qu'apparaisse la phrase rare. Non, je pense que ça va t'inspirer la sodomisation.
Tu as parlé d'Unika Zern. Elle a écrit quand même un livre important.
Plusieurs. Plusieurs, il y a l'homme jasmin, voilà.
L'homme jasmin, bien sûr.
C'est le plus connu.
Je veux dire que lorsqu'on lit le livre de M. Bourson, qui est avec nous, là, Chine, on est en dehors des morales, des morales.
Des moralines, disons aussi.
Oui, des moralines, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va dans tous les sens. Oui. Voilà, qui, voilà oui. C'est l'image. On n'est pas dans le langage normal, donc on est au-delà de langage. Lorsqu'on est chez...
Chez Belle-Mère, c'est pareil.
Malheureusement, chez Éric Tessier, c'est ce qui est terrible. J'ai proposé un psychiatre, il n'a pas
voulu y aller,
on ne sait pas pourquoi. C'était Jacques Freud, ou alors Simon Lacan, il n'a pas voulu y aller, il ne veut pas y aller. C'est comme ça. Mais là, on est aussi dans l'absence de morale.
Ah oui, oui,
aussi bien Thanatos et Eros. Alors, c'est à toi de t'exprimer, monsieur Conan. Moi, ça m'a surpris, parce qu'on a une discussion privée un jour, tu t'en souviens pas dans quel état tu étais. Oui. Tu m'as dit que des gens étaient choqués.
Oui, Belle-Mère est encore...
Et pourquoi ? Alors moi, j'ai pris ces images parce qu'il
a fait la poupée, parce qu'il a donné une
image. Il a morcelé le corps féminin.
Le corps féminin. Unique Arzone, par exemple, a participé à une exposition surréaliste où elle était nue et ficelée sur une espèce de table. Et tout ça, en regard de notre monde d'aujourd'hui et le regard par exemple, de MeToo, des féministes, tout ça. Belle-Mère fait partie des artistes à dégommer, comme Picasso.
Ou Balthus,
qui lui est accusé d'être pédophilie, etc. Il y a tout un cycle d'artistes. Ou Godard, dont les premières images du mépris sont traînées dans la boue, parce qu'il considère la femme comme une marchandise. Tu sais, tu aimes mon cul, etc. Et Brigitte Bardot, tout ça. Donc tout ça aujourd'hui est revu et redigéré par une certaine pensée effectivement très morale, et Belle-Mère est dans le lot des condamnés à mort.
C'est un très beau livre. Hein.
Oui, c'est un livre magnifique dont je suis très fier.
Vous savez qu'on trouve chez Nietzsche quelque part cette phrase, il faut la chercher, je ne sais pas où. Où Nietzsche dit la littérature, c'est la grande politique.
Oui.
Ce serait une phrase magnifique.
Oui, si
on la saisit.
Il me semble que c'est dans le gai savoir.
Le gai savoir, c'est une phrase magnifique. Mais je veux dire que quand on vous lit, en fin de compte, c'est quoi la grande... C'est le langage.
Oui.
C'est le langage.
Oui.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Voilà. Vous le dites à un moment donné, ça m'intéressait, vous dites à un moment donné, le Dieu, c'est la voiture.
Oui, c'est ça, les cieux.
Les cieux.
Oui,
et alors là, on est d'accord.
Les cieux qui crissent.
Je l'écris comme un voyou.
Voilà. Monsieur Coda est très croyant. Lui, il a une ventouse, il croit que c'est Dieu. Lui. Il est différent, mais je lui ai conseillé déjà, si vous êtes un con, il peut pas. Mais c'est ça le grand truc. C'est ça, je veux dire, le grand truc, c'est bien. C'est la grande clé, c'est le langage.
Ah ben oui. Oui. Oui, d'ailleurs, je m'intéresse aussi notamment à Wittgenstein, qui parle lui aussi du langage d'une autre façon, pour s'en méfier d'une certaine manière.
Ce qui m'a plu dans votre livre, c'est que c'est un terrain vague, un chiffonnier, on joue du crochet, etc. Mais, alors, on ne va peut-être pas être d'accord, tant mieux, hein. Contrairement au livre que j'ai retrouvé dans mon fouillis, le livre de Rilke que vous avez mis en scène, attention, ne me mentez pas, hein. Le livre de la pauvreté
et de la mort,
il n'y a pas de plainte chez vous. Il n'y a pas de plainte. Alors que chez Rilke...
Et c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, hors antenne, c'est qu'effectivement, sur... Dans le livre de la pauvreté et de la mort, ça m'ennuie un peu cette espèce
Il y a un côté plaintif.
Un côté plaintif, mystique, voilà, quelque part. Aussi. Oui,
c'est pas le grand Rilke. Vous lisez Duino, c'est pas le grand Rilke. Ce que je vous propose, c'était un plaisir, Jacques Coda, après nos ruptures mutuelles. Ça va très mal entre vous et moi, mais c'était toujours un plaisir.
Mais bien sûr, c'est pour ça que c'est un plaisir.
Et vous allez revenir
demain, quand tu veux.
Non, demain, vous êtes viré, mon Dieu. Ce qu'on va faire, on va écouter la Fitzgerald, Simone, et puis on va récapituler tout ça.
On récapitule.
D'accord. C'était un plaisir, Gilbert. Et merci d'être venu, parce qu'on devait se voir au mois de juillet, je crois.
Oui,
mais vous aviez tellement bu que vous êtes tombé à la sortie du bistrot des Arts.
Oui, c'est ça.
Vous étiez ivre mort.
En état d'éthylisme.
C'était un plaisir, Gilbert. D'accord. I'm thrilled
and knowing your lips have just mine, as if in a dream divine. Oh, but I'm thrilled. I'm thrilled by things that you do, the way that you echo my name, as though with a heart aflame. Oh, but I'm thrilled. It's like the magic of springtime when you enter a room. A symphony seems to play swing time, and a million roses burst into bloom. I'm thrilled just holding your hand or standing beside you a while. You look in my eyes and smile, and oh, but I'm thrilled.
Monsieur Bourson, qui avait publié, Monsieur Bourson, s'il vous plaît, qui avait publié, ben Monique n'est pas contente, Chine aux éditions d'Euro, c'est-à-dire avec une couverture frauduleuse de Jacques Coda, collection Chine. Très bien. Et je réitère, pas une plainte, rien, ça coule comme ça, c'est un chant, c'est pas un livre facile. Hein. C'est pas un livre facile. Et tant mieux. Il n'y a pas de concession. Y a... Par contre, celui qui fait la, qui racole, qui fait la pute, etc., qui parle que de sodomie. Bah
c'est mon métier. Hein.
C'est Monsieur Jacques Coda qui s'est Et puis qui est Herc Florbel. Jacques Coda, il nous reste 5 minutes.
Oui.
Vous avez tenté un peu
de
lucidité d'esprit en 5 minutes.
De présenter Florbel.
Je vais lire les trois probabilités.
Oui.
Dans du roman Florbel, nous ne connaissons que les notes du fils de Sade ayant brûlé l'ouvrage à la mort de son père. Il s'agissait des journées de nature dévoilées. En 2011, une exposition prit comme titre Florbel after Sade. Ça, c'est facile. On y précise l'œuvre manquante devient prescription pour parler comme Godard. Dans prescrire, il y a écrire, et pour écrire Sade, il y fallait Coda. Là, c'est un peu facile aussi. Je ne sais pas qui a rédigé ça, vous le présenterez.
Je ne sais pas qui c'est. D'accord. Je crois que c'est Guy Debord, de mon souvenir, mais je ne sais pas.
C'est un petit bonhomme.
Bon, alors Florbel, qu'est-ce que c'est ? C'est effectivement le dernier roman de Sade que le fiston a brûlé. Comme on parlait de Michel Simon tout à l'heure, François Simon a brûlé toutes les œuvres de Petit Pigeon. Il a tout foutu. Il a mis tout sur un brasier. Il a foutu le feu. Il avait dit qu'une collection pornographique.
Mon cher cousin.
Donc Florbel. Donc je me suis retrouvé comme tout le monde enfermé dans mon petit château, et comme Sade à la Bastille, pendant les mois Covid, là, que tout le monde a connu, ça vous rappelle quelque chose de la Covid? Donc,
vous, c'était les mois coïtes.
Les deux. Allez-y. Nous ne sommes pas une lettre de vocabulaire près. Et donc, j'ai écrit ce petit ouvrage où je me regarde dans le miroir de mon ami Sad. C'est un autoportrait, à vrai dire. Voilà. Et pendant donc une période d'enfermement qui est beaucoup plus courte que celle du marquis. Et j'avance pas à pas, je dialogue avec le marquis, je me raconte, je parle de ma petite peinture, de mes illustrations que je fais pour Gilbert Bourson, de ma rencontre avec Géant rue de Bagnolet et du baiser que nous avons échangé sur nos bouches purpurines.
Et c'est peu dire.
Et d'autres anecdotes comme ça, salaces. Pendant quelques... Et c'est illustré avec des dessins magnifiques dont, là, c'est dommage, on ne voit pas. J'ai le t-shirt Fleur Belle que tu adores, que tu m'as commandé en plusieurs exemplaires. Et voici
Monique.
Il y en a un pour Monique. Voilà, Fleur Belle. Ça veut dire la jolie fleur.
Ah. Monique. Mais il en parle comme d'un livre facile à lire, ce qui n'est pas le cas du tout.
Si, c'est très lu,
je redoute de le lire. Mais tu peux. Parallèlement à des études de philosophie, oui. Jacques Coda, voilà. 105 kilos. Pour 180 cm, voilà. Yeux bruns, cheveux châtains, poursuit une formation de réalisateur. Ouais. À partir de 78, il réalise pour la télévision française, algérienne et canadienne une trentaine de documentaires. En 98, il interrompt sa carrière de documentariste pour commencer à peindre et à écrire, réfléchir sur le concept de figure en peinture, non pas dans sa déconstruction, comme aurait pu le laisser supposer ses influences comme le free jazz, mais dans sa reconstruction à partir d'un œil omnipotent, celui d'un photographe. Ainsi, il crée le mouvement surfiguratif qui prend appui sur l'image du réel, autrement dit sur le déjà-vu. La première exposition sur figuratif a lieu à Paris, à l'automne 2000. Il s'intitule « Toutes les femmes aiment reposer nues ». Jacques Coda y représente des nus revue par la peinture et dans le cercle élargi du déjà-vu, une relecture des œuvres de Paul Cézanne, que on a déjà eu une discussion là-dessus.
Ah oui, c'est terrible. Vrai, c'est son peintre préféré.
Pastel à l'huile, pastel sec, aquarelle, gouache, acrylique, encre fusain, ce sont les techniques qu'il utilise sur papier. Le papier comme lien entre le peint et l'écrit, entre l'amour et la mort. Il frappe d'anglais que je ne lirai pas. Il hante aussi PS. Il hante aussi tous les bistrots, les boucheries du 20e arrondissement. Si vous le rencontrez, il porte sur la poitrine un t-shirt relatif à cette dernière. Et il remercie Monique d'avoir fait la technique de cette émission insupportable. Voilà.
Merci Monique.
C'est Marquis. Merci Monique. C'était un plaisir. Donc je rappelle, Michel Berbousson, Chine. Voilà. C'était un plaisir, Gilbert. Franchement, malheureusement, je rappelle aussi Jacques Coda.
Le livre sort le 5 octobre.
Et nous, on se revoit là-dessus, hein, d'accord ?
Oui, moi,
on se revoit.
Mon cher géant.
Et voilà, il y a un auteur que je voudrais citer que tu ne connais pas, c'est Isidore Ducasse, Comte de Lautréamont. Comte de Lautréamont, tu ne connais pas. C'est pas de ta faute, c'est comme ça. Et puis, franchement, Éric Tessier.
Tessier, le délinquant.
Hein, le délinquant, là. Voilà, on l'embrasse très fort, on l'aime beaucoup. Et c'est bien, non, franchement.
C'est très bien, les deux tomes, hein, les aventures de. On retrouve Sade encore. Hein. Monsieur, c'est Sade.
Hein. Monsieur, voilà. Je suis caché là. Et c'est le monsieur qu'on peut croiser dans les écoles du 19e, 20e arrondissement avec un imperméable. C'est lui.
C'est
il accroche ses œuvres. Puisque les éditions du Rose n'ont pas un phénomène de distribution fantastique, il a trouvé ça comme.
Oui, dans son appareil.
Voilà. Merci à vous deux. C'était un plaisir, Gilbert.
Pareillement. Merci à toi.
Attention, qui on remercie ? Gilbert.
Monique.
Évidemment.
Mais
vous rendez compte.
Pipip, hurrah, Monique.
Merci à vous.
Merci de nous avoir invités.
Toi aussi, bébé. Oui.
Papa, mais, on bisa, ouais, ni mama. Mais... lele lango mamo mumba mamu bochi baba wale na mwana ngebu meba tuat 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 Yola Baba kwa fulu memuka sabizu weba Nunga tuwa ibele Makame na belu we mama Tobo na mbabutu Kutu kukwa mugebe Mepolo mbedi Maboro mena yoto Mena rekneto yete mbe ye mame Wengenya wewe diante Angwebane Wepiri mukase We mukasa remboga tuat 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 oh tuat tuat Kondo sahabo misa yelongo busa busu taske mwane timutu mumute mama busa le akibavome mwana mema isuku shangwe mshoshe kele tuat 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 Oh, do what? Do what? Bingo,
Mame,
Zenzo,
Mamo,
Matsono,
Mame,
Inyungu,
Mamo,
Musang,
Mame,
Bakem,
Mamo,
Bangong,
Mame,
Tumbu,
Mamo,
Lukumu,
Mame,
Bidib,
Mamo,
Shei, Mashaku mamo tuat 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 tuat
Voilà, sirotant mon vin, tombé de zénith, on a dire. Moi qui me prétends écrivain, eh bien ce soir, j'ai rien à dire. Je jette une pièce à la patronne, et puis j'attrape ma veste en cuir. Un client fait « Bonne nuit, bossonne ». Je réponds rien, j'ai rien à dire. Et je dérive sur les trottoirs. Les réverbères ont d'affreux rires. C'est fou ce que la nuit devient noire. Putain, quand on n'a rien à dire. Ce n'est pas à coup de silence que l'on se bâtit son empire. Tels sont les mots de ma conscience. Elle parle, et moi j'ai rien à dire. Comme un violeur prend position, je sors mon stylo pour écrire. Mais on ne viole pas l'inspiration. Non, rien à faire, j'ai rien à dire. Les rues défilent et j'accélère. Je songe à me reconvertir. C'est navrant, mais de quoi j'ai l'air? Moi, l'auteur qui n'a rien à dire. Et j'entends les étoiles qui causent La poésie doit me maudire. Tant de sujets, de nobles causes. Et moi, moi qui n'ai rien à dire, je croise des feux, des McDonald's. Cette nuit va-t-elle enfin finir? Et je songe à Scott Fitzgerald. Bordel, pourquoi j'ai rien à dire? Et je cours à travers la ville. Je cours pour m'étourdir, pour oublier l'état servile de celui qui n'a rien à dire. Oui, je cours à travers la ville. Je cours pour m'engloutir. Qu'elles sont cruelles et qu'elles sont viles, ces nuits où l'on n'a rien à dire. Ces nuits où l'on n'a rien à dire.
Chapeau, y a tous ces vers qui prennent leurs pieds à me bousculer les neurones, qui écrivent des trucs qui font chialer ou qui gueulent dans le vent des cyclones. C'est pour pas que mes idées s'envolent, qu'elles partent trop tôt, que je les garde au chaud ces belles babioles sous mon chapeau. Au milieu de mes idées noires se baladent toujours mes rêves de gosse sur leur vélo dans ma mémoire. Des sacs de billes, des plaies, des bosses. Je revois mon père dans son camion, parti trop tôt, le temps des cerises rue de ma maison, sous mon chapeau. La, da, 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 da. Chapeau, t'y trouveras plus beaucoup de cheveux. Maintenant ils poussent à l'intérieur de ma caboche et c'est tant mieux. Je fais des économies de coiffeur. Je dis ça mais je les aimais bien. Parti trop tôt, long dans mon dos, mes cheveux d'indien sous mon chapeau. Y a des océans, des bateaux, des fleuves de mots pour s'y baigner. Du fer dans mon sang, rouge drapeau pour y forger nos amitiés. Les rires de ces nuits caraïbes, partis trop tôt, du rhum des étoiles, un homme libre, sous mon chapeau. Y'a mes épaules en oreiller, où tu viens te poser parfois. Toi qui voudrais tant me garder, qui m'aime plus qu'on ne m'aimera. Tu me dis que la route peut bien attendre, que je pars trop tôt, mais j'ai encore tant à apprendre sous mon chapeau. Des fois je le trouve un peu bizarre, le mec qui est là sous mon chapeau. Moitié chanteur, moitié anard, du genre qui doit pas boire que de l'eau. C'est peut-être ses années de jeunesse, parties trop tôt, qui font qu'il n'y a jamais rien qui presse sous son chapeau.
bonheur, combien ça coûte? Est-ce que l'existence vaut son prix? Quel est le bénéfice du doute? Est-ce que la naissance vaut son cri? On traîne au fond de sa bourse plus de questions que de créances, et une retenue à la source qui nous interdit les avances. Le bonheur, combien ça coûte? Est-ce que l'amour vaut son prix? Quel est le bénéfice du doute? La franchise donne-t-elle du crédit? Peut-on vivre à découvert? Ou vaut-il mieux se donner le champ? Liquider pour y voir plus clair, pratiquer le libre-échange. Le bonheur, combien ça coûte? Quand montent les enchères du désir? Quel est le bénéfice du doute? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un empire? C'est quoi l'indice de croissance? Faut-il à tout prix s'affranchir? Ou emboîter la tendance à la grande braderie du plaisir? Le bonheur, combien ça coûte? Peut-on compter sur ses amis? Quel est le bénéfice du doute? Nos comportements sont acquis. Nos manières donnent à penser et toutes nos excuses prêtent à rire. Nos attitudes sont empruntées. Peut-on encore s'appartenir? Est-ce le moment de se racheter? Y a-t-il un moyen de s'investir? Des réserves à porter, une seule devise à retenir. Le bonheur, combien ça coûte? Est-ce que notre peau vaut son prix? Quel est le bénéfice du doute? Qu'est-ce qu'on perd à gagner sa vie? Peut-on spéculer sans danger sur les valeurs à l'échéance? Ne trouvera-t-on quelque intérêt à la clôture de la séance? Le bonheur, combien ça coûte?
Comment vous saviez pas? Elle a perdu son chat, le gros chat Angora, qu'elle en est au marché. Comment vous saviez pas? Elle a perdu son chat, perdu, enfin perdu. Moi je dis qu'on lui a volé, gnac 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 gnac. Oh, quand on voit ce qu'est devenu notre quartier, ah c'est plus que c'était, y'a pas de quoi s'étonner. Comment vous saviez pas? On lui a volé son chat, le gros chat Angora, qu'elle en est au marché. Comment vous saviez pas? On lui a volé son chat, volé, enfin volé. Peut-être bien qu'ils l'ont mangé, gnac 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 gnac. Oh, quand on voit ce qu'est devenu notre quartier, il faut s'attendre à tout avec ces étrangers. Comment vous saviez pas? Maintenant ils volent les chats. On commence par les chats et va savoir après. Comment vous saviez pas? Ils habitent à côté, à 15 dans un galta, sans eau et sans WC, gnac 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 gnac. Oh, quand on voit ce qu'est devenu notre quartier, si c'est pas malheureux, manger des chats français. Comment vous saviez pas? Tout le monde ne parle que de ça. La fille, la dame au chat, dit qu'elle s'est fait violer. Comment vous saviez pas? Paraît qu'ils l'ont droguée et qu'ils voulaient l'emmener dans leur pays là-bas. Gnac, 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 gnac. Oh, quand on voit ce qu'est devenu notre quartier, il faudrait plus de rondes, on n'est pas protégé. Comment vous saviez pas? On forme un comité pour les faire expulser. avant qu'il y ait d'autres dégâts. Le frère de mon beau-père connaît l'adjoint au maire qui dit que le député couvrira toute l'affaire. Nia, 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 oh, quand on voit ce qu'est devenu notre quartier, il était temps, dites-moi, on n'a que trop tardé. Comment vous saviez pas? Elle a retrouvé son chat. Son chat, comment, quel chat? De quel chat vous parlez? Le gros chat Angora qu'elle emmenait au marché. Ah, le chat du marché, oui. Oui, je l'avais oublié.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir.
Bonjour, après avoir charmeuse de Monique, Nicolas et Serge au micro, on accueille aujourd'hui des archéologues. C'est pas qu'on ait fait des fouilles dans les dessous de nos studios, mais quoique, on ne sait jamais, on y trouverait certainement des choses intéressantes. En tout cas, bon, comme d'habitude, je vais vous lire une petite présentation que vous pouvez lire sur notre site où faites Trou Noir avec deux S, enfin un S à chaque mot, Radio Libertaire, et vous aurez à la fois cette petite présentation et à partir de demain le contenu de l'émission. Voilà, comme d'habitude. Donc, une petite présentation rapide, et je vous rassure, après on a deux heures pour un peu préciser tout ça. Notre invité, Pierre Gouletker, est un archéologue préhistorien iconoclaste. Alors j'ai mis des guillemets, iconoclaste. Citation, « Ma carrière a été le reflet de ma personnalité, de ma passion pour le dessin et pour l'écriture, de mon inquiétude de militant humanitaire, de médiateur de nos connaissances, de conteur, de fils d'ouvriers égarés dans la classe moyenne. » Fin de citation. Lors d'une intervention récente, il a été présenté sous de multiples facettes, géologue, ethnographe, artiste, poète, conteur, marcheur, prospecteur, bigoudin, vulgarisateur, il y a trois petits points en plus, les yeux rieurs, protégé par un chapeau. Il est en face de moi, il a enlevé son chapeau, mais je vous assure, il a vraiment un chapeau. Avant de sortir du ghetto de l'université et de participer à l'éducation populaire, il a longtemps organisé des sorties sur le terrain, notamment avec des enfants. La question de Ronan, ou Ronan, je ne sais pas comment on dit, Ronan. La question de Ronan, 10 ans. Pourquoi les hommes préhistoriques se sont installés là, l'a orienté vers la nécessité de tenter de reconstituer, de comprendre les activités des humains ayant produit les objets. C'est ce qu'il a pratiqué dans ses recherches en Bretagne et aussi parmi ses missions au Niger. Mais l'État contrôle de plus en plus l'action, comme les publications des archéologues. Et une ubérisation de la profession se met en place. Parmi les nouvelles générations, la résistance s'organise, en particulier, je pense qu'on en parlera un peu en fin d'émission, dans les Gaël, groupe archéologie en lutte, Gwenole Cardivelle, donc notre deuxième invité, archéologue, présent dans le studio, donc regrette que, je te cite, l'archéologie moderne évolue vers la scientificité et le rationalisme en passant par la normalisation bureaucratique. Découvrant Préhistoire du futur, donc on y vient, il s'agit d'un livre, de Pierre Gouletker, il décide avec un autre archéologue, Sébastien Putniak, qui n'est pas avec nous, de le rééditer. Citation toujours, et je terminerai là-dessus, de Gwenole. Ce livre m'a encouragé dans ce qu'a été pour moi l'archéologie, c'est-à-dire un travail de passion pour passionner et un bel exercice d'éducation populaire. Voilà, donc c'est pourquoi on a décidé, on a un certain nombre de rubriques, l'émission d'aujourd'hui serait dans la rubrique tranche de vie. Alors surtout, vous mettez un S à tranche. En général, les invités qu'on a dans cette rubrique ont fait beaucoup de choses dans leur vie, et je crois que c'est ton cas. Donc voilà, bah, je vais vous passer la parole, notamment à Pierre, si tu veux dire un petit peu déjà au départ comment tu as été amené à faire de l'écologie. Si j'ai bien compris, ce n'était pas forcément évident au départ, et puis tu as choisi ça.
Comment j'ai fait pour faire de l'archéologie ?
Oui,